France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Si je m'étais fiée au rythme de travail de notre invité, auteur prolifique de bande dessinée, j'aurais pu m'attendre à ce qu'il choisisse Domenico Scarlatti, auteur de 555 sonates, ou non mieux encore, Georg Friedrich Telemann, sans doute le plus fécond de tous les musiciens d'époque baroque. Le catalogue qu'il a dressé lui-même vers la fin de sa vie comporte pas moins de 6000 œuvres. Eh bien non, notre invité a choisi un compositeur à la production beaucoup plus modeste pour démarrer cette émission, mais qui ne manque pas de nous faire voyager. Décollage immédiat pour l'Espagne avec Isaac Albéniz. Extrait de la suite espagnole d'Isaac Albéniz, joué ici par Thibaut Garcia pour accueillir notre invité aujourd'hui sur France Musique, notre invité tout sourire, Johan Spahr. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Quel plaisir de vous accueillir, dessinateur, scénariste, écrivain, réalisateur. Quelle est l'histoire de cette suite espagnole ?
Ça, c'est le rêve de la guitare andalouse. C'est l'espèce de fantasme espagnol dans lequel ma famille a baigné. Ma grand-mère venait du Maroc espagnol, donc elle avait un truc là-dessus. Je crois qu'Asturias, je l'ai entendu pour la première fois dans un disque d'Enrico Macias, parce que dès que quiconque prétend jouer de la guitare espagnole, il interprète ça. Donc c'est presque du folklore pour moi.
Et puis c'est l'enfance aussi, alors ?
Sans doute. Oui, c'est un air que j'ai en tête depuis l'enfance. Je rêvais un jour de pouvoir prendre une guitare et pouvoir jouer ça. Bon, je fais de la guitare depuis une dizaine d'années, je ne sais pas jouer ça.
Il faut s'y mettre, il faut essayer. Alors c'est une suite espagnole qui à l'origine a été composée pour le piano. Je pense que votre papa jouait au piano.
Oui, lui il jouait du jazz. Son titre de gloire, c'est qu'il avait fait un set avec Sidney Bechet. Il devait faire sa première partie à Alger et le pianiste de Bechet était ivre et c'est mon père qui l'a remplacé. Ça, c'est la gloire familiale vient de là. Et voilà, j'ai grandi là-dedans.
Mais il jouait pour vous, peut-être le soir, avant de vous coucher ?
Pas trop. Ma mère est décédée avant que j'aie 4 ans et le piano s'est arrêté à ce moment-là. Il y a eu un immense vide musical que j'ai comblé à partir de l'âge de 30 ans en m'achetant d'abord un harmonica, ensuite un ukulélé, ensuite une guitare manouche. Ma grand-mère paternelle jouait. Elle avait un playel qu'elle avait ramené d'Algérie. Et alors, elle jouait des tangos, des passodobles et elle jouait un peu de classique. Mais c'était des choses qu'on apprenait aux dames à l'époque, donc du Chopin, donc des choses comme ça.
Donc vous n'avez pas été amené à vous asseoir au clavier ?
Si, j'ai repeint son clavier avec des feutres quand j'étais petit, on m'a beaucoup grondé.
Et on va écouter votre deuxième choix musical. Johan Spahr, c'est cette sonate numéro 4 de Mozart.
Thank you.
L'Allegro de la quatrième sonate de Mozart, interprétée par Claire-Marie Le Guay et non pas l'épouse de notre invité Johann Sfar, quoique cette sonate, elle résonne à la maison.
Mais oui, oui, je suis très heureux, mais ma femme apprend le piano et elle travaille ça. Et si vous voulez, moi, ça fait 10 ans que j'apprends la guitare. Je prends ma première leçon depuis 10 ans. C'est-à-dire, je vois le prof 2 fois, après je le vois pas pendant 2 mois parce que j'ai du boulot. Mais moi, quand je révise la guitare, je révise 20 morceaux. Je les fais comme une patate, mais il y en a 20. Tandis que elle, qui fait beaucoup plus de progrès que moi et qui est beaucoup plus studieuse, c'est 3-4 morceaux depuis un an et c'est quand même tout. Elle les fait bien, hein, mais c'est quand même tout le temps les mêmes au bout d'un moment. Et j'ai beaucoup de sympathie pour Mozart, même si j'ai pas eu la chance de le connaître. Mais il y a un moment, il me casse la tête, Mozart. Et ça n'enlève rien à la qualité ni du jeu de ma femme ni de la composition de Mozart qui suis-je pour le juger.
On ne remettrait surtout pas ça en question.
Mais si je fais, imaginez, c'est ta playlist et c'est Mozart toute la journée qui fait. Voilà. Moi, c'est pas ce que j'écoute spontanément. Moi, c'est du jazz manouche toute la journée ou du klezmer ou alors du métal ou alors du Frank Zappa. Enfin, j'ai besoin d'une oreille plus névrosée et plus obsessionnelle.
Et qu'est-ce qui vous oriente de grand matin?
Oui, les musiques, oui. Oui, les musiques, oui. C'est très. Je pense que je fais du dessin folklorique dans le sens où il a quelque chose de tribal, il a quelque chose de répétitif.
De dansant?
Oui. Oui, il y a une brutalité, il y a un aspect rhapsode. J'aime pas l'idée d'improvisation parce que ni en musique ni en dessin ça n'a aucun sens. Mais en revanche, il y a des sauts dans le vide dans mon dessin qui répondent très bien au jazz, qui répondent très bien au rock de Frank Zappa par exemple. Voilà, je sais pas à quoi ça correspondrait en musique classique, j'ai pas les connaissances nécessaires. Thank you.
I've got my love to keep me warm. Stéphane Grappelli, Yehudi Menuhin ici. Le choix musical de notre invité Johann Sfar sur France Musique. Un petit mot sur ce choix.
C'est la rencontre des deux qui me bouleverse. Moi, je joue comme une patate à la guitare, mais j'ai plein de copains qui ont fait le conservatoire d'autres choses. Et dès qu'on veut jouer quelque chose avec eux, c'est pas possible. Ils disent tout de suite, ah non, je peux pas, moi j'ai fait le conservatoire. On dirait que le conservatoire t'interdit de jouer quoi que ce soit. Et la rencontre de Grappelli et Menuhin, c'est deux personnes qui se sentent autorisées.
Mais alors, c'est amusant ce que vous dites, parce que moi, j'ai lu que Menuhin s'inquiétait du fait que Grappelli soit encombré d'un collègue incompétent qui n'avait jamais joué de jazz, et Grappelli s'inquiétait, lui, de ce que Menuhin allait penser de sa technique.
C'est ça qui est très beau, c'est qu'ils se sentent autorisés. Le titre de ce disque...
Et ils y vont.
Oui, je crois que le titre du disque a changé, mais dans les premiers enregistrements, ils avaient intitulé le disque « Strictly for the Birds ». Seulement pour les oiseaux, et je trouve ça très très beau.
Ils avaient peur que les auditeurs émettent un jugement peut-être sur cette association.
Ça je ne sais pas, moi c'est un de mes disques préférés.
Vous l'avez découvert comment ?
Grappelli, par Django Reinhardt, parce que je viens de la guitare, et par son œuvre, et par de longs entretiens qu'il a donnés, que je trouvais extraordinaires, où il expliquait comment, au début du siècle, musicien itinérant qu'il était avec son père, il avait vu l'arrivée des radios comme la fin de la musique. Il s'est dit, mince, plus personne va embaucher de musiciens maintenant qu'il y a des radios. Et on voit tous ces moments où les musiciens ont cru que ça allait être fini de la musique, et finalement, la musique, elle est toujours là.
France Musique, Saskia Deville.
Un extrait de ce premier mouvement de la 9e symphonie d'Antonin Dvorak, symphonie du Nouveau Monde, interprétée par Andris Nelson, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, le choix de Johann Sfar pour nous sur France Musique. Aujourd'hui, un compositeur qui lui aussi s'est retrouvé mêlé à un autre univers musical.
Oui, moi c'est par rapport à Gainsbourg que je voulais ce morceau. Je trouve que c'est une mélodie terrifiante, cette musique fait peur. Et
c'est vrai ?
Ah oui.
Pourquoi ?
Si on l'écoute au premier degré, sans distance, ça dit, quand Gainsbourg met ça sur Bardot, on voit la terreur qu'il éprouve face à Bardot. Moi, j'ai donné une importance énorme à Bardot dans le film de Gainsbourg, parce que c'est un symbole, parce que c'est le symbole de la France, parce que c'est le symbole que ce qui devait effrayer Gainsbourg à bien des égards. Et si on plaque cette musique sur une histoire d'amour, ça dit beaucoup sur l'idée que se faisait Gainsbourg de l'amour.
C'est amusant, moi je voyais quelque chose de très conquérant.
Alors moi, je trouve ça tauromachique, mais on ne sait pas qui conquiert qui en l'occurrence. Enfin,
c'est vrai.
C'est sanguinaire. On est parti pour souffrir quand on écoute ça. C'est pas rien.
Et puis on parle de ce film évidemment, Gainsbourg, vie héroïque que vous avez réalisé en 2010 déjà. Le temps passe vite. Gainsbourg qui a énormément utilisé des thèmes classiques dans ses chansons. Moi, j'avais envie qu'on écoute, tout d'abord Initials BB pour voir de quoi on parle.
Initials BB.
Et puis on parlait de piano tout à l'heure avec vous, Johann Sfar. J'ai trouvé autre chose, Lemon Incest, toujours Serge Gainsbourg, on entend ici Charlotte Gainsbourg chanter sur, eh bien, du Frédéric Chopin. Une chanson inspirée donc par cette étude numéro 3 de Frédéric Chopin qu'on écoute ici. Vous la connaissiez, cette étude?
Oui, bien sûr. Oui, oui, quand même, oui, bien sûr. Il était intimidé par la musique classique. Il se sentait coupable vis-à-vis de son père de faire de la variété. Donc, en même temps, il revenait vers là. Et il revenait toujours au fait d'être autorisé, d'avoir eu l'initiation, de ne l'avoir pas eu, de se comprendre. Moi, tous ces paradoxes de Gainsbourg, je les aime beaucoup, en fait. J'aime pas les
intimidé,
gens.
Intimidé, mais il a quand même osé s'en emparer.
Oui. Oui, enfin, intimidé par rapport à son père, par rapport au fait que pour son père, tout ça, c'était pas vraiment de la musique et que ceci et que cela. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime pas trop les gens qui sont de plein pied. Moi, j'aime bien quand on va sur la pointe des pieds dans certaines choses.
Et vous a-t-il permis justement cet intérêt pour Gainsbourg de découvrir un pan de répertoire que vous ne connaissiez pas ?
Sans doute oui, et sans doute que lui fait ce pont, lui aide à cette initiation pour des gens qui comme moi ont pas écouté ça quand il aurait fallu l'écouter. Donc oui, j'ai peut-être découvert Chopin grâce à Gainsbourg, et Chopin me l'a rendu parce que quand on fait la promo du film de Gainsbourg en Pologne, les journalistes ne vous parlent que de Chopin. Donc
c'est vrai.
Oui, comme ça, je dis, tiens, bah,
on y revient très régulièrement, c'est vrai.
J'avais retenu 2-3 morceaux, ça m'a été utile.
Johann Sfar, votre actualité, eh bien, c'est la sortie du tome 11 du Chat du Rabbin chez Dargo. Également, le tome 2 de Ministère Secret, intitulé Trembler en France avec Mathieu Sapin, que vous faites paraître chez Dupuis, à retrouver aussi dans les pages de Libé. Et on va se quitter avec votre dernier choix musical, ce magnifique duo des fleurs qu'on me demande quand même régulièrement cette émission. Oui, je crois qu'il s'est lu pas mal de monde. Extrait de L'Acmé de Léo Delibes.
Pourquoi on vous demande ça? Parce que moi, ça vient du film True Romance, c'est là que je l'ai découvert. C'est dans True Romance.
Ok, eh ben, la dernière fois c'était Feu Chatterton, deux musiciens de Feu Chatterton qui me l'ont demandé. Eux étaient vraiment possédés par la poésie du texte de cet opéra.
Ah bah voilà, moi c'est True Romance de Tony Scott.
Le cinéma amène encore une fois à la musique classique encore et toujours. Merci beaucoup Johann Sfar d'être venu nous voir. Et à très bientôt sur France Musique. On se quitte avec Nathalie Dessay, Delphine Edan, l'Orchestre du Capitole de Toulouse et Michel Plasson. Et puis je voudrais tout de même remercier l'équipe évidemment qui était avec moi pour cette émission. Éric Lancien, Pauline Boisaubert et Éric Boisset. Très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.